résidence privée du noviciat par le père Philippe à Saint-Jadard le 5 mai 1989.
Question, c'est très important, mais je ne peux pas tout faire ici. Pourriez-vous nous commenter le Notre Père? Très très beau sujet, c'est sûr. Vous avez commencé au sujet du pardon. Vous savez qu'il y a un commentaire du Pater de saint Thomas. Ceux qui ont le temps de lire ça, c'est traduit. Et c'est très beau, c'est une manière d'entrer dans saint Thomas. Vous avez commencé au sujet du pardon, mais vous n'avez malheureusement pas continué. Qu'est-ce que veut dire recevoir ses frères comme on reçoit le corps du Christ dans l'Eucharistie? Quelle qualité cela apporte à la charité fraternelle? Oui, on va expliquer ça tout de suite. Jésus se donne comme pain. Et comme vin. C'est la modalité symbolique, mais d'un symbolisme divin, sur laquelle il se donne à nous. C'est-à-dire, comme le pain, c'est le serviteur par excellence. C'est l'aliment. Et l'aliment ne garde rien pour lui. Il se donne entièrement. Vous voyez, prenez tous les services. Il y a le service d'un instrument. Il y a le service de l'habit. Il y a le service de l'aliment, du pain. Vous ne mangez pas votre crayon mine. Ça deviendrait dangereux de le manger. Vous ne mangez pas votre pipe. Vous ne mangez pas votre vêtement. Et dans les familles nombreuses, on sait qu'un vêtement, ça se passe. Parce que quand on grandit, ça ne pousse pas. Ici, on ne grandit plus beaucoup ordinairement. Garder le même ami. Seul l'aliment, on l'utilise substantiellement. Ça qui est unique dans l'aliment. Je crois que c'est ça la grande lumière. C'est que Jésus nous donne, se donne de cette manière et nous... Il y a le lavement des pieds et le don de son corps et de son sang. Et donc, nous devons comprendre que dans le service à l'égard de nos frères, il n'y a pas de limite. On doit servir ses frères autant qu'on le peut, dans l'amour, et dans un amour divin, qui fait qu'on est entièrement donné à leur service. Il s'agit de le comprendre divinement, c'est bien évident, parce que c'est un amour divin. Il ne s'agit pas de le comprendre matériellement, vous voyez. Matériellement, on dirait, il y a le don des corps, donc. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on se donne en serviteur absolu. Alors, évidemment, c'est la charité intérieure, ça, dès qu'elle s'incarne dans la miséricorde, elle est limitée. Parce qu'autrement, vous voyez bien, se donner à son serviteur, à son frère, de cette manière-là, et les autres, il n'y aurait plus que plus rien du tout. Donc, il faut toujours bien distinguer l'aspect absolu du mystère de la charité et la réalisation concrète du mystère de la charité. Si vous voulez, l'union affective et l'union effective. Puisque nous avons déjà vu ça. Vous devez être très calé là-dedans. L'union affective, c'est le mystère intérieur. Il n'y a pas de limite. On aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Et on aime le prochain du même amour. Affectivement. Intentionnellement. D'une intentionnalité substantielle, divine. Et dans l'ordre pratique de la réalisation de la vie commune, de la miséricorde. Vous ne pouvez pas faire ça. Si vous voyez votre frère qui a de la peine à réaliser ce qu'il doit faire, n'allez pas vous précipiter à toute vitesse, surtout si vous avez autre chose à faire. Vous devez accomplir en premier lieu votre devoir d'État. Parce qu'on compte sur vous, et vous le faites avec la plus grande charité. Si il vous reste du temps, soyez Simon de Cyrène. S'il vous reste du temps, par-dessus le marché. Et ordinairement, dans la vie religieuse, on demande à son prieur ou à son maître de novice si on peut le faire. Je vois que tel frère a beaucoup de peine à faire ce qu'on lui demande à faire. Est-ce que je peux lui donner un coup de main? Si le prieur ou le père m'a dit oui, très bien. Si c'est un non. Mais c'est un peu paresseux. Fais surtout pas ça. Il y a des grosses gouttes qui coulent, mais ne vous en inquiétez pas. C'est le père médecin qui... Ou bien il vous dira pas de raison, non, il vaut mieux pas, puis c'est tout. En pleine charité, il vous dira non. Si vous restez un peu de temps, travaillez. C'est ça que Dieu vous demande. Travailler intellectuellement ou aller prier. Mais c'est pas nous qui pouvons régler l'exercice de notre miséricorde. Je rencontre un pauvre dans la rue, surtout à Paris. Est-ce que j'ai le droit de dépenser l'argent qu'on m'a confié? J'ai fait de votre pauvreté. Je serais bien heureux de lui donner. Est-ce que j'ai le droit? Cet argent m'a été confié, vous en faites en ce que vous voulez. Pas vous maintenant comme novice, mais plus tard. Très bien. Et vous connaissez ce pauvre, vous pouvez lui donner. Parce que votre prieur vous a dit, faites en ce que vous voulez. Ça peut arriver. Il y a des personnes qui vous donneront en disant, mon père, vous connaissez sûrement des pauvres. Moi, je ne les connais pas. Alors, je vous donne ça. Non pas pour le couvent, mais pour vos pauvres. Vous en parlez au prieur, vous dites, voilà, Robert. On n'a pas le droit de détourner l'attention du donateur. On n'a pas le droit. On doit respecter. On est des instruments de Dieu. Oui. Alors, c'est pas toujours commode. Mais ça fait partie de la pauvreté. Sens très fort. Alors c'est la même chose pour notre temps, voyez. Le temps ne nous appartient pas. Et nous devons donc le faire dans l'obéissance. L'exercice de la miséricorde, l'exercice concret de la charité fraternelle, nous le faisons dans l'obéissance. Un frère qu'on aime beaucoup nous dit... Seul moment d'être tranquille, c'est après qu'on prie. On pourrait se parler dans le parloir du bas. Personne ne nous verra là. Est-ce qu'au nom de la charité, vous avez le droit de répondre? un exercice concret de la charité, de la miséricorde. Hein? Alors, quelquefois, vous êtes obligé de répondre. C'est sûr. Et vous en rendrez compte après. Si vous en parlez, qu'on dit ah non, non, après accompli, silence complet. C'est pire. La charité ne passe-t-elle pas avant la règle? Hein? Petit cas de conscience. Et c'est vrai, je comprends très bien qu'on se le pose. Alors vous direz, je suis novice. Je suis prophète temporaire. Quand on est prêtre, c'est différent. Et même là, vous voyez, quand on est prêtre, normalement, on en parle à son prieur. Je dois recevoir quelqu'un absolument après accompli. Quelqu'un qui en a absolument besoin. Un prieur accorde la permission, c'est normal. Que la miséricorde passe avant la règle. Et si on est novice, on est novice. Et alors on doit à ce moment-là entrer très à fond. C'est important de comprendre ça. Et ça fait partie de l'obéissance. C'est rude l'obéissance. Mais c'est plus agréable à Dieu que tous les sacrifices. Il n'y a rien qui est plus agréable à Dieu que l'obéissance. Et plus que ce que vous considérez, vous, comme un devoir de miséricorde. C'est pas la charité, hein. Quand vous répondez de cette manière, c'est pas la charité, c'est la miséricorde. La charité, elle est intérieure. Donc dans la charité, vous pouvez toujours répondre. Comme dans l'amour à l'égard de Dieu. Et dans l'exercice extérieur de la charité et de la miséricorde, il faut être dans l'obéissance. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre le mystère de l'Eucharistie. Jésus se donne à nous sous ce mode sacramentel, c'est un absolu d'amour. Il ne s'agit pas d'imiter matériellement. Vous ne pourriez pas. Hein. Donnez-vous sacramentellement. Vous ne pouvez pas vous donner sacramentellement. Ce serait très commode. Ce serait la bilocation, vous voyez. Une bilocation. Sacramentellement, vous voyez ça. Jésus dans le ciel se donne à tous les chrétiens du monde aujourd'hui. Sacramentellement, ça dépasse toute bilocation. Il se donne réellement, mais sous un mode sacramentel, qui est le privilège de Dieu. Donc n'imitez pas matériellement. Comprenez comment Jésus, là, nous donne cette leçon merveilleuse de nous donner le plus qu'on peut, dans l'obéissance. Parce qu'il se donne dans l'obéissance. Puisque les sacrements, l'Eucharistie, c'est le don du Christ à la croix. Il se donne donc dans l'obéissance. Et nous devons nous donner dans l'obéissance à nos frères. Là, alors, vous entrez vraiment dans le mystère que l'Eucharistie vous fait comprendre que la charité fraternelle est un absolu. Il y a deux absolus dans notre vie qui ne font qu'un. L'oraison, non, la charité la charité divine, la soif de contemplation, la soif de l'oraison. Et puis, la réalisation concrète. La réalisation concrète de l'oraison est imposée dans notre règle. Si un jour on ne peut pas, pour des raisons apostoliques, c'est pas pour vous, c'est pas arrivé. Jésus sait, mais ça ne doit pas être systématique. Peut jamais. Dire, voir diriger quelqu'un au parloir, la direction spirituelle ou la prédication, ça remplace l'oraison. Non, ça ne remplacera jamais l'oraison. Jamais. Mais il peut se faire que certains jours, des raisons particulières, on est terriblement pris. On ne peut pas. On demande à Jésus et à la Vierge Marie de remplacer pour nous. Et on le fait part dans le devoir, dans l'obéissance. Et on en parle à son directeur spirituel. Sur le moment même, on est bien obligé de le faire. On en parle après. Je me souviens très bien. Ça vous donne un exemple. J'ai très bien connu l'abbé Godin. L'abbé Godin, c'était celui qui a commencé en France à être prêtre ouvrier. Il venait tous les mois au Saulchoir. Et tous les mois, je le voyais une heure. Et il voyait le Père Chenu. Un jour, je lui ai demandé, ça m'intéresse beaucoup, parce que ça m'intéresserait beaucoup de savoir ce que vous demandez au Père Chenu. Je pouvais lui demander, parce que il avait une telle ouverture d'âme, c'est tellement beau, tellement simple. Lui, qui, vous voyez, j'ai entendu après la mort du Père Godin parler de lui, je pouvais être sûr que les gens n'avaient rien compris. Parce qu'il avait vu le danger des prêtres envoyés. Il a dit, il ne faut surtout pas que ce soit un clergé parallèle. Et lui était poussé vers ça, parce qu'il était jeusiste. Il sortait du milieu ouvrier. Et il voulait aller jusqu'au bout de son don. Mais il m'avait dit, il faut que ce soit toujours très, très particulier. Et dans l'obéissance. Autrement, tous les farfelus voudront devenir prêtres ouvriers parce qu'ils ne s'entendent pas avec leur évêque. Porte de sortie, vous comprenez. J'avais très bien vu. J'étais merveilleux comme intelligence. Donc, une ouverture de cœur merveilleuse comme un novice. On s'aimait beaucoup. Et puis, il me posait des questions. J'ai rencontré tel. Un jour, je n'ai pas pu faire oraison. C'est quelqu'un qui faisait oraison. Pour telle ou telle raison. Est-ce que j'ai bien fait? Ou devant tel, vous voyez, on demande à son directeur de conscience. Au prieur, on demande l'obéissance parce qu'on est absent. On dit que c'est pour une raison apostolique. Mais les raisons profondes, ce n'est pas nécessairement au prieur. C'est notre père spirituel. Il faut toujours avoir un père spirituel. Ça, indispensable. Le jour où on n'a plus, on risque de partir à la dérive. Le Saint-Esprit nous donne le don de conseil. Le don de conseil, c'est demander toujours à quelqu'un de nous aider. Et à son directeur, on pose ses cas. Qui se trouve tout le temps dans notre vie apostolique. Et on met toute notre vie apostolique dans l'obéissance. Toute notre vie apostolique dans l'obéissance. Et dans l'obéissance à un prêtre qui est notre Père. Et dans la congrégation, on demande que ce soit autant que possible un Père de la congrégation. C'est bien que ce soit comme ça pour qu'ils comprennent mieux l'esprit. Mais on aurait un père spirituel, vous voyez, qu'on a connu depuis qu'on est tout jeune et qu'on aime beaucoup et qui a tout à fait, qui comprend parfaitement ce que c'est que la contemplation et qui comprend parfaitement ce que c'est que la vie religieuse et la vie monastique et la vie de Saint Jean, qu'on ait la simplicité de demander, écoutez, est-ce que je peux garder ce père spirituel? Et on vous l'accordera. C'est bien évident. Pas de tyrannie là-dedans, on n'est pas une secte. Mais c'est bon de garder l'esprit. Parce que le fait de la contemplation et de la vie apostolique, ça pose des tas de problèmes. Oui, je dis ça, c'est parce que c'est important. L'abbé Godin, quand vous dites l'abbé Godin au prêtre ouvrier, où ils se mettent au garde à vous. Alors quand vous dites, j'ai très bien connu l'abbé Godin, il faut sauter. Vous, vous. Eh bien, oui, oui. Et du tout le problème des prêtres ouvriers. Et le cardinal Suard m'en a parlé. Je me souviens. Parce que le cardinal Suard avait permis. C'était les prêtres ouvriers de la première heure. C'était très différent. Le cardinal Suard, vous savez bien ce qu'il faisait de temps en temps. Pour être sûr, il se mettait en civil et en ouvrier. Cardinal Juin, pour aller écouter ses prêtres. Pour être sûr que ses prêtres ouvriers ne disent pas de bêtises. Et le cardinal Juin avait des professeurs de théologie morale. Dans un grand séminaire, le grand séminaire, je sais plus, c'était un des grands séminaires de France. Et il les suivait. Mais moi, je vais me déguiser un masque, mais je vais écouter les indications de mes frères pour être sûr qu'ils ne disent pas de bêtises. Bah, très très bien, ça. C'est, parce que c'est vrai. On est responsable de ça. Et quand même, il est très fort ce sens-là. Il avait accepté les prêtres envoyés. Il m'avait dit pourquoi, du reste. Mais goutte à goutte, hein, avec beaucoup, beaucoup d'intelligence. Et l'abbé Godin, la dernière fois que je l'ai vu, vous ne pouvez pas savoir que c'est la dernière fois. Il était à la porte, il allait partir, puis il est revenu. Il dit, Père Philippe, je ne vous ai jamais dit ça, mais je me sens poussé à vous le dire. Je ne sais pas pourquoi. Je vous en supplie, restez toujours ce que vous êtes. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, cette soif de contemplation et la théologie. Et ne descendez pas pour être prêtre ouvrier. L'Église a plus besoin que vous ne pensez de prêtres comme ça. C'était beau. C'est comme on... Il pouvait très bien me le dire, parce que, je vous dis, on s'aimait beaucoup. Il est parti là-dessus. C'est pour ça que je pouvais lui demander ce qu'il dit au Père Chenu. Il m'a dit au Père Chenu, je pose des problèmes de sociologie. Il dit, bon, très très bien, allez-y. Son cœur de prêtre, son cœur d'enfant de Dieu. On se rencontrait très fort et on avait, je peux le dire, deux situations extrêmes dans l'Église. Hein. Tout à fait extrêmes. Mais dans une profonde unité. Dans le mystère du Christ, dans le mystère de l'Église et l'amour de l'Église. Il est parti et durant, parce que c'était tous les mois, je crois 15 jours après, il est rentré un jour chez lui, il avait une petite chambre de bonne dans un des coins de Paris, tout près de Montmartre. Il est entré, il était éreinté, fatigué. C'était l'hiver qui commençait, je crois bien. Il y a l'hiver qui finissait, je ne sais plus exactement comme date, peu importe. Il faisait froid, quoi. Il avait, vous savez, les appareils électriques qui réchauffe, quoi, qui sont comme une espèce de petite bouillotte. Il l'a mis. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il a été électrocuté. On l'a retrouvé mort le matin dans son lit. Électrocuté. Alors après, j'ai entendu, je vous dis, des conférences sur l'abbé Godin. C'était pas ça du tout. C'était un zèle apostolique, mais il n'avait rien, vous voyez, de cette lutte des classes. Il était né ouvrier dans une famille très pauvre. Il savait ce que c'était, l'ouvrier. C'est pas du tout une séduction, pas du tout, il savait très bien. Et s'il était prêtre ouvrier, c'est parce qu'il aimait ses gars, ses grossistes, quelqu'un qui disait sa messe tous les jours, hein, et tous les jours faisait oraison. Et en plus, il était au travail avec eux. Et sans du tout jouer l'opposition. Vous voyez ? Alors, je crois que ça, c'est vraiment, vous voyez, le mystère de l'Eucharistie. Tu peux commander d'aller jusque-là dans le don. Et toujours dans l'obéissance. C'est ça qu'il faut retenir. Toujours dans l'obéissance. Si on n'est pas dans l'obéissance, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout le temps. Alors, quelle qualité cela apporte à la charité fraternelle ? Ça n'apporte pas une qualité, c'est par mode d'exemple. Le lavement des pieds, on est serviteur. Dans l'Eucharistie, on se donne. Lavement des pieds, on est totalement relatif. Et c'est le pardon. C'est le pardon. Et Jésus demande de nous pardonner constamment. Pour montrer qu'on s'aime. On ne garde rien dans l'opposition. Alors, quel est le lien entre l'oraison et la croix ? Ça, nous allons le voir. Donc, je continue. Sagesse de la croix, si vous vous souvenez bien. La fois dernière, on avait vu tout le mystère du sacerdoce du Christ. Le sacerdoce du Christ s'exprime dans le mystère de la croix. Et nous avons essayé de comprendre ce qu'était cette sagesse de la croix. Manifestation de l'amour. Réalisation de l'amour. Vous voyez, la croix, c'est le sacrement de l'amour. C'est un signe, manifestation, et une réalisation, un instrument de l'amour. C'est vrai, tous les sacrements proviennent de la croix. Et Jésus le dit, comme Moïse a élevé le serpent au désert. Et élever le serpent au désert, c'était le symbole de la guérison. Il suffisait de regarder ce serpent, on était guéri. Parce que le symbole du serpent, comme tous les symboles, sont ambivalents. Et pour les médecins, c'est encore resté, hein, la sagesse médicale, le serpent. Le serpent, dans toute la grande tradition hébraïque, c'est à la fois la sagesse et la ruse. Mais ce qui va ensemble, au fond, la sagesse dans sa virtuosité. Alors si on perd le contenu de la sagesse, il ne reste plus que la virtuosité. Alors c'est le tentateur, la ruse, l'animal le plus rusé. Alors, c'est la souplesse de la sagesse. La sagesse a une souplesse parce qu'elle est entièrement finalisée. C'est toujours l'amour qui nous rend souple. Et c'est toujours le manque d'amour qui fait que la loi passe devant. Nous devons pas être des gardiens de la loi. Nous devons être des gardiens de l'amour et des témoins de l'amour. Et le prêtre est des gardiens de l'Eucharistie. Témoins d'amour. Nous ne devons pas être des gardiens de la loi, même pas de la règle. Non, non. On l'aime comme un moyen privilégié que l'Église nous donne pour atteindre la sagesse. Ce n'est pas un absolu. L'obéissance, c'est autre chose, c'est évangélique. Jésus est mort dans l'obéissance. Mais l'obéissance est au-dessus de la règle. C'est directement évangélique. Vous ne pouvez pas vous sauver sans l'obéissance. Impossible. Obéissance à l'Esprit Saint. Obéissance à Jésus. Obéissance à Marie. Obéissance à vos supérieurs. Obéissance au prêtre à votre directeur spirituel, qui est une obéissance beaucoup plus souple, parce que c'est une obéissance de fort interne, qui est toute simple et toute proche de l'obéissance à l'Esprit Saint. On ne peut pas sauver sans l'obéissance. Et quand c'est en dehors de l'obéissance, ça risque toujours de perdre sa signification. Oui. Et la grandeur de la vie religieuse, c'est de mettre toute notre vie dans l'obéissance. Pour qu'il n'y ait pas de fuite. Il y a des fuites. C'est évident. Et l'obéissance à l'évêque d'un prêtre, hein, ça c'est relatif. Et la lecture du réfectoire d'aujourd'hui l'a bien montré. Hein. Quand Saint Augustin, dans un zèle merveilleux, c'est un zèle étonnant. Je comprends très bien qu'il est zèle-là. C'est-à-dire qu'il faudrait que tous les prêtres soient religieux. Et c'est un peu vrai. Puisque Jésus ne dit pas en choisissant Philippe, il lui dit « Suis-moi ». Il ne dit pas « Tu seras prêtre ». Non. Suivre le Christ, suivre l'agneau, c'est la vie religieuse. Il dit ça même à Pierre, bien qu'il ait une belle mère. Mais on ne parle jamais de l'épouse de Pierre, ce qu'il a été marié vraiment. Cette belle-mère, hein, c'est comme les frères de Jésus. Hein. Ça peut tout simplement être... Pam, qui a élevé Pierre... parce qu'il était orphelin. Bien que sa mère était morte, il lui a dit, je serai sa mère, ne vous inquiétez pas. C'est la belle-mère. Terme très souple. On n'en sait rien. Hein. On cite ça comme exemple. Historiquement, demandez à des historiens, c'est pas grand-chose. Vous avez perdu, on sort dans la vision béatifique. On s'en occupera pas beaucoup. Venez, vous saluerez la belle-mère de Pierre. Ce qui est sûr, c'est que l'obéissance est évangélique. Ça, oui. Et vous voyez, c'est peut-être par là que la vie religieuse est le plus proche de l'évangile. Puisque c'est par l'obéissance. Et tous les autres vœux, c'est pour l'obéissance. Sauf l'esprit de virginité. Et la pauvreté, c'est pour l'obéissance. Ça, c'est sûr. Si vous aviez des richesses, vous ne pourriez pas obéir. L'esprit de virginité a son exigence propre, intérieure. Mais l'obéissance permet à la virginité de s'incarner. Et si nous n'avions pas ça, on risquerait tous de faire des imprudences. Parce que l'esprit de virginité s'incarne selon des formes diverses, ça c'est sûr. Et selon des styles différents. Regardez les styles des pères du désert pour l'esprit de virginité. Quand ils étaient tentés, précipités dans des ronces, et dire ça, si vous faisiez ça aujourd'hui, que dirait le père maître, voyez. Bon, ben, j'étais tenté, je savais qu'il y avait des ronces là-bas. J'étais me voir, et voilà, je suis couvert de sang. Crise hystérie. Non, ne faites plus ça, je vous en supplie. Notre foi, venez, trouvez, ne faites plus ça, ne recommencez pas. Et c'était considéré comme des signes de sainteté. Vous voyez comme c'est difficile, hein, l'aspect matériel et l'incarnation. Il faut suivre ce que l'Esprit Saint demande. L'Esprit Saint demande sûrement, à partir de Vatican II, une charité fraternelle beaucoup plus intense, beaucoup plus vécue. Ça, j'en suis sûr. Et la petite Thérèse l'a compris. Beaucoup plus. Mais ça demeure dans l'obéissance. C'est pas toujours commode. Mais il faut compter sur la grâce de ceux qui exercent l'autorité et qui doivent avoir des lumières particulières. Et si l'on va contre ces lumières, on risque d'être très imprudent. Mais d'être très, très, très intelligent pour obéir. L'intelligence, parce que c'est la prudence, hein, nous conduit à l'autorité. Fort interne, fort externe, c'est-à-dire l'autorité paternelle d'un prieur, l'autorité paternelle de notre père spirituel. Double paternité. Qu'il faut comprendre, hein, double paternité. Le père de fort externe, le prieur, oui, c'est un fort externe qui va plus loin que ce que dit le droit canon. Hein. La paternité d'un prieur, ça va plus loin. Puisque le bien commun du couvent, c'est le corps mystique. C'est la sainteté. Et le prieur est gardien de la sainteté de son prieuré et de son couvent. Il demande à tous les membres de tendre vers la sainteté. Et c'est en fonction de la sainteté qu'il organise l'unité de son prieur, de son prieuré. Mais c'est sûr que l'autorité du père spirituel va plus loin, parce qu'elle touche notre docilité à l'Esprit Saint. Donc ça va plus loin. C'est beaucoup plus profond. Il n'y a pas d'opposition entre les deux, jamais. S'il y a une opposition, on doit l'éclairer. On doit la dire à son père spirituel. Et le père spirituel doit aller trouver le prieur. Ou on la dit au prieur, et le prieur va voir le père spirituel. Autant que possible avec l'intéressé. Pas toujours nécessairement, mais autant que possible. Pour que tout soit très clair. Dans l'obéissance. Parce que c'est complexe l'obéissance, c'est pas simple du tout. Il faut jamais dire que c'est simple l'obéissance. Il ne faut pas obéir comme un manche à balai. On a dit ça, ça y est, jusqu'au bout. Non. C'est une obéissance qui implique une coopération. Donc on coopère avec le prieur, à la sainteté du prieuré. Et on obéit à son père spirituel pour notre propre sainteté. Sainteté. Alors les deux se tiennent. Parce que dans un prieuré où tous les membres seraient saints, le prieuré serait saint. Vous voyez, et c'est la sainteté de chacun qui fait la sainteté du prieuré. Mais il y a quand même un témoignage à donner de l'unité de charité du prieuré. Et s'il y a des petites divisions, on n'en parle pas à l'extérieur. Jamais. Ils sont discrets. Autrement, on trahit. On en parle à son père spirituel, et jamais à l'extérieur. Dès qu'on en parle à l'extérieur, le démon s'en sert, immédiatement. Et ça fait du venin, ça fait des éclaboussures, c'est le murmure. Dès qu'on en parle à l'extérieur, c'est le murmure. C'est quelque chose qui n'est pas net, qui n'est pas vrai. Il faut bien comprendre. Toute notre vie chrétienne est tendue vers le mystère de la croix. Sagesse pour nous. Et que la vie religieuse veut nous unir à la croix de la manière la plus forte qui soit. C'est pas nous qui avons inventé la vie religieuse. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous non plus. La vie religieuse a été inventée par l'Église. Et elle est reconnue par l'Église. Et l'autorité religieuse est reconnue par l'Église. Toute autorité religieuse est reconnue par l'Église. Je vous ai dit, personnellement, j'ai très bien senti, tant que l'Église accepte ad experimentum, l'Église reconnaît, mais ne met pas son cachet. Faites l'expérience. Et le jour où l'Église reconnaît, alors, il y a une certitude pratique bien plus grande. On peut encourager quelqu'un à entrer dans une congrégation reconnue par l'Église. Dans une congrégation qui n'est pas encore reconnue par l'Église, il faut toujours dire ad experimentum, à vos risques et périls. C'est quelquefois héroïque d'entrer dans une petite communauté qui n'est pas encore reconnue. Il faut bien qu'il y en ait qui entrent. Si c'est personne qui entrait, ça ne pourrait pas grandir. Mais c'est l'Esprit Saint lui-même. Il faut une mission spéciale de l'Esprit Saint qui fait comprendre en raison de liens personnels souvent. Les premiers, c'est souvent des liens personnels. Il y a eu des grâces qui fait qu'on a compris qu'il fallait suivre tel instrument de Dieu et s'y donner à fond. Je me souviens très bien, les premiers, ils me l'ont dit. Même si nous mettons très longtemps avant d'être connus par l'Église, ça n'a aucune importance. Même si actuellement nos vœux sont des vœux privés, ça n'a aucune importance. Nous voulons être fidèles jusqu'au bout. Oui, certaines obéissances, certaines fidélités héroïques. C'est très beau. Et au fond, c'est toujours la même fidélité. On n'a aucun droit à la vie religieuse. Aucun. Le jour où on croit avoir des droits, c'est fichu. On n'a aucun droit. Donc on le reçoit comme une miséricorde. On le dit, hein. On le dit. Il faut, on n'y pense pas. Quand on fait les vœux, quand on reçoit la vie, qu'est-ce que vous demandez? La miséricorde de Dieu et celle de mes frères. Il y a peine à prendre ton pris la vie, pas ceux qui ont pris la vie. Hier, mais ça peut arriver. À peine a-t-on pris la vie, c'est un droit. À la fin du noviciat, c'est un droit. J'ai un droit à faire des vœux. Pas du tout. Aucun droit. Aucun droit. À faire des vœux. C'est une miséricorde de Dieu que vous demandez. Et quand on demande la miséricorde de Dieu, on la demande dans un esprit de pauvreté, sans aucun droit. On peut dire ses désirs, mais dans la pauvreté. Et ça, c'est tellement important. Autrement, on récupère. Vous voyez, on fait des vols. Il y a des passages dans l'Écriture, hein. Les fils du vieux, parce que ça m'intéresse, du vieux prêtri. Quand on est vieux, on doit toujours regarder ce passage. Le vieux prêtre Élie, il avait des serviteurs. Il était très bon. Trop bon. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient, les fils du vieux prêtre Élie? La nuit, ils récupéraient sur les victimes grasses, puisque Dieu aime l'odeur de la graisse qu'ils font. Alors, les fils d'Élie, ils récupéraient la nuit la graisse des victimes, parce qu'ils aimaient ça. Et le vieux prêtre Élie ne voyait rien, parce qu'il était vieux. Et Dieu n'était pas d'accord. On n'a pas le droit de récupérer. Quand on récupère, c'est jamais béni de Dieu. Jamais. Donc il faut toujours se mettre dans cette attitude de pauvreté absolue. Le plus pauvre, peu importe. Il vaut mieux être mendiant de Dieu que d'être estimé des hommes. Ça, c'est bien évident. C'est la place de choix d'être un mendiant de Dieu. Être estimé des hommes, c'est pas une place de choix. Parce que ça change. On on est estimé aujourd'hui, mais demain, attention, le coup de bambou, ça c'est bien évident, vous allez glisser, tout le monde rigolera, mais c'est pas étonnant, c'était lui, on le savait bien. Voilà. Ça, c'est la gloire humaine. La gloire humaine ne dure pas. Tandis que être mendiant de Dieu, c'est pour l'éternité. On sera heureux dans l'éternité d'avoir été mendiant de Dieu. Il y en est mendiant pour obéir. Celui qui est vraiment pauvre obéit. Celui qui veut être totalement chaste et vivre dans l'esprit de virginité, il est pauvre et il obéit. Ça va très loin, ça. Alors, la croix et la lumière directe de nos voeux. Je vous ai déjà dit, si la croix n'était pas le modèle direct de notre vie religieuse, de notre vie chrétienne, dans la vie chrétienne, il n'y aurait pas la vie religieuse. La vie religieuse existe à cause de la croix. C'est une sagesse virginale. C'est une sagesse de pauvreté. C'est une sagesse d'obéissance. La croix. Et ça va au maximum de ces trois. Sagesse virginale. Facile à comprendre. La croix, c'est la manifestation la plus grande de l'amour. La sagesse virginale, c'est de vivre de l'amour dans ce qu'il a de plus fort. C'est l'amour qui commande l'esprit de virginité. Il y a un amour jaloux. L'amour jaloux du Christ sur nous. L'amour jaloux du Père sur nous. On ne veut rien enlever à Dieu. C'est pour ça qu'on se donne totalement. On ne veut rien récupérer. C'est pour ça qu'on se donne totalement. Toute récupération est une rapine par rapport à la virginité. Ça va loin, ça, très très loin. On doit demander à l'Esprit Saint de nous éclairer là-dessus. La croix est sagesse virginale. Parce que justement, c'est un surcroît d'amour. On manifeste qu'on aime quand on obéit. Mais on peut aller encore plus loin. C'est une obéissance toute intérieure, toute du cœur. C'est ça l'obéissance virginale. Vous savez ce que dit saint Paul à propos de la Vierge et de la femme mariée? Il y a un petit passage qu'on doit de temps en temps relire et de temps en temps se l'appliquer et de temps en temps, pour plus tard, la prêcher. Je me souviens, j'étais tout jeune dans l'ordre de la vie apostolique. J'avais un groupe à Rueil-Malmaison. C'est pour ça que je suis très touché quand on retourne à Rueil-Malmaison. Je crois que c'est la première prédication à des jeunes, un groupe de jeunes très fervents. J'ai prêché sur ce passage de saint Paul. Vous voyez ce passage de saint Paul. Si j'ai un conseil à vous donner, ne vous mariez pas. Parce que vous serez divisé. Si j'ai un conseil à vous donner, vivez cet esprit virginal. Pour être totalement donné. La Vierge n'est pas divisée. La femme mariée est divisée. C'est pas si elle doit plaire à Dieu ou plaire à son mari. De temps en temps, la fine pointe de son esprit plaire à Dieu. Mais sa sensibilité, la mode, plaire à son mari. Cache-t-on, pose la question, est-ce que une femme mariée peut jeûner autant qu'elle le veut. Non. Elle doit demander conseil à son mari. Est-ce qu'elle peut faire oraison autant qu'elle veut? Non. Faut pas qu'elle gêne son mari. Et je me souviens, un très saint prêtre, qui est dans la prédication, c'était en Belgique, donc dans un pays de mines, ce très saint prêtre avait remarqué que certaines femmes très pieuses partaient laisser leur mari prendre leur petit déjeuner seul et partir au travail. En prédication, il a dit, mes chères femmes, viens avec tes femmes. Vous êtes toutes mariées. Est-ce que c'est bien pour vous d'assister à la messe comme ça, pendant que votre mari prend son petit déjeuner seul? Est-ce que c'est pas votre devoir d'être auprès de lui? Alors chacune sont venues parler leur code conscience en face. C'est lui-même qui m'a raconté. Alors, pour toutes, il a dit, soyez présentes. Et je mettrai la messe à une heure qui ne dérangera pas le petit déjeuner de votre mari. Ces femmes pieuses ont dit ça à leur mari. Marie dit, ah, voilà un curé qui comprend. Ah, il est chic ce curé. Des gens qui ne mettaient plus du tout leurs pieds à la messe. Voilà un curé qui comprend. Non, on ira le voir. Ils ont été voir le curé. Le curé les a renversés. Ils sont venus à la messe ce dimanche. Puis après, ils ont dit au curé, peut-être bien qu'on ferait bien comme nos femmes. La messe tous les matins, c'est peut-être bon, avant le travail. Et tous ces hommes sont venus en demandant une heure possible. Alors, c'était plus la femme seule, c'était la femme. Ils repartaient pour prendre leur petit déjeuner. Voyez, c'est beau ça. Et c'est évangélique ça. La charité fraternelle de l'épouse pour son époux. Évidemment, elle est divisée. J'avais prêché ça pour des jeunes, en faisant bien la part des choses, en montrant que le mariage est une chose grande, mais il y a quelque chose de plus grand, objectivement. C'est la vie religieuse, la consécration à Dieu. Le soir, je recevais des coups de téléphone de ces différents directeurs de conscience, de ces braves filles qui étaient là, disant, mon père, vous n'avez pas le droit de dire ce que vous avez dit. Je dis, quoi? Je n'ai pas le droit de dire ça. Venez me trouver. On discutera. Ils sont venus. Je dis, quoi? L'évangile est toujours le même. Vous avez des opinions qui ne sont pas évangéliques. C'est de la psychologie, vous sentez. C'est-à-dire, ça dépend. Il faut choisir selon l'épanouissement le plus grand. Oh, vous voyez comme c'est évangélique. Or, une femme s'épanouira plus dans le mariage, donc il faut la pousser vers le mariage. Je connais beaucoup de femmes qui souffrent beaucoup dans le mariage. Et quelquefois, ça fait tragique, l'épanouissement. Et je connais des saintes religieuses très épanouies. Allez voir telles religieuses. Vous verrez bien si elles ne sont pas épanouies. Ce sont des maîtresses femmes. L'épanouissement, qu'est-ce que c'est? D'abord, ce n'est pas évangélique. C'est la finalité, c'est l'amour de Dieu qui commande toute autre vie religieuse. Il faut objectivement comprendre que la vie religieuse, c'est le moyen le plus parfait pour la sanctification. Ça, il faut avoir l'audace de le dire. C'est la doctrine de l'Église. Le Saint-Père l'a répété quand il est passé à Lyon. Devant toutes les religieuses qui étaient là, et les religieux. C'était très curieux. On lui avait préparé un texte. Il a lu le texte. Le cardinal a eu la bonne idée. Il l'avait dit ici, du reste, avant. Il dit, le Saint-Père, il faut lui demander de parler au-delà des textes préparés. Tous étaient d'accord en disant c'est très juste. Puis quand il est passé, le cardinal de Contré est allé vers le pape, dit très Saint-Père, maintenant adressez-vous à eux. je vais dire les choses. On était tous à Fourvière. On le savait. Vous croyez ? Oui, oui, dites. Ça fait raconter. Eh bien, vous êtes ceux qui sont les plus aimés du Christ. Vous avez choisi la meilleure part. Elle ne vous sera pas ôtée. Même si des curés ne comprennent pas, ne vous inquiétez pas. Vous êtes comprise du Christ. Et je vous comprends. Et le cardinal vous comprend. Et les évêques vous comprennent. Vous êtes la partie principale du troupeau du Christ. Ça, c'était pas inscrit. C'était le cœur du pape. Je crois qu'il faut qu'on ait le sens très fort, vous voyez, parce que ça se perd. Que la vie religieuse, c'est le moyen le plus divin, le plus parfait, le plus efficace vers la sainteté. Je ne dis pas que tous les religieux sont saints, hein, non. Et il y a des femmes mariées qui sont beaucoup plus saints que certains religieux, certains religieuses. Et il y a des hommes mariés qui sont beaucoup plus saints, ça c'est sûr, que des religieux. Mais ça c'est autre chose. C'est parce que ces religieux n'ont pas tout mis en cause pour vivre leur vie religieuse. Ils n'ont pas vécu leur vie religieuse avec ferveur. Si on vit sa vie religieuse avec ferveur, c'est le moyen le plus merveilleux. Moyen le plus merveilleux. Ça, surtout quand on comprend que notre vie religieuse, on la vit dans l'obéissance à Jésus, à l'Esprit Saint et à son directeur de conscience. C'est vrai. C'est dans l'obéissance. Qu'on se donne totalement à Dieu. On le fait librement, c'est bien évident. Ça n'enlève rien du tout à la liberté. Au contraire, l'obéissance donne une liberté au carré. Parce que soi-même, on ne sait jamais, voulez-vous. Vous voyez devenir un triste religieux. Pas drôle. Il vaut mieux être un bon père de famille. Ça, c'est sûr qu'un religieux sec, comme une trique. Vous savez bien, un religieux sans aucun épanouissement. Un religieux qui... Enfin, ouais, je suis un religieux, je ne sais pas pourquoi. J'ai rencontré des... C'est forcé qu'on en rencontre. Des religieux qui disaient ça. Je ne sais pas pourquoi. Arrivé à 45 ans. L'âge politique. Je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est triste. Faites une retraite. Allez au désert, puis vous verrez. Parce que c'est vrai. Le choix, c'est comme quelqu'un qui est marié, qui au bout de 10 ans dit, ah j'ai choisi, mais je sais vraiment pourquoi pas. Je sais pas comment j'ai pu choisir. Ah si la voyez, elle est si insipide. Voyez, parce qu'ordinairement c'est ça que les hommes disent. Je sais pas pourquoi. Eh bien, vous l'avez quand même choisi. Vous l'avez quand même aimé. Oui, mais... Parce que vous n'avez pas éduqué votre amour. Et dans la vie religieuse, on éduque son amour. La vie religieuse nous porte, mais il faut qu'on la porte. Et porter sa vie religieuse, c'est se servir du cadre de la vie religieuse pour toujours aller plus loin. Ça, porter la vie religieuse. Alors à ce moment-là, il y a une ferveur. Et alors, la vie religieuse nous aide, mais ce n'est pas la vie religieuse, vous voyez, qui est la mesure de la charité. Non. La mesure de la charité, c'est la charité. Il n'y a pas d'autre mesure. Il n'y a pas de mesure de l'amour. Ce n'est pas la vie religieuse. La vie religieuse est un moyen merveilleux, un moyen inventé par l'Église. Quand certains vous sortent ça, ils disent, mais oui, c'est l'Église qui l'a inventé. Ça ne me gêne pas du tout. L'Église est l'épouse du Christ. Et le Christ a eu la délicatesse de laisser à son épouse le soin de choisir le bouquet le plus merveilleux qu'on pouvait offrir à l'époux. Ah, si vous dites ça, j'y avais pas pensé. Ah oui, il faut y penser. La vie religieuse, c'est le bouquet le plus parfait que l'épouse peut offrir à son époux. Le bouquet du printemps, hein, les muguets, les roses écarlates ou blanches, ou celles qu'on préfère. Et l'hiver, c'est pas le bouquet qu'on offre. L'hiver, on s'offre. Il n'y a plus de fleurs. Quand il n'y a plus de fleurs, c'est pour qu'on s'offre. On se donne complètement. Et c'est l'Église qui se donne par la vie religieuse. C'est l'Église qui se donne. C'est l'Église qui a inventé la vie religieuse. C'est l'Église qui est garante de la vie religieuse. C'est l'Église qui se donne dans la vie religieuse. Ça, c'est très important de comprendre ça. Il ne faut pas avoir peur de dire que ce n'est pas dans l'Évangile. Tout n'est pas dans l'Évangile. L'Esprit Saint doit nous conduire à la vérité tout entière. Et Jésus nous dit, je ne peux pas tout vous dire, parce que vous n'allez pas le porter. Et l'Église, poussée par l'Esprit Saint, nous conduit à la vie religieuse. Et nous fait vivre de